Chapitre 3. Sur le balcon royal du temple de Zeus, Cassandre observait les funérailles de Paris avec une inquiétude qui ne cessait de croître. Lorsque la carriole apparut au centre de la place, tirée par des guerriers et non par des bœufs ou des chevaux, la carriole transportant un dieu condamné, Cassandre manqua en défaillir. Hélène la grippa par le coude pour la soutenir.
« Qu'y a-t-il ? »
murmura son amie grecque, celle-là même qui, avec Paris, avait apporté à Troie souffrance et tragédie.
« C'est de la folie !»
murmura Cassandre. Elle s'adossa au mur de marbre sans préciser si elle évoquait sa propre folie, la folie que représentait le sacrifice d'un dieu, la folie inhérente à cette interminable guerre, la folie de Ménélas en contrebas, une folie qu'elle avait sentie monter durant l'heure écoulée, ainsi qu'une terrible tempête suscitée par Zeus. Elle-même ne savait pas ce qu'elle disait. Le dieu capturé, qui était retenu non seulement par les barreaux de fer plantés dans la carriole, mais aussi par le champ de force ovoïde des Moravec qu'il avait pris au piège, s'appelait Dionysos, ou encore Dionysus, fils de Zeus et de Sémélé, dieu du vin, du sexe et de l'extase mystique. Cassandre, qui depuis sa plus tendre enfance rendait hommage à Apollon, le meurtrier de Paris, avait néanmoins connu plus d'une communion intime avec Dionysos. Celui-ci était le seul prisonnier divin depuis le début des hostilités, et c'était la force d'Achille qui l'avait terrassé, la magie Moravec qui l'avait paralysé, la ruse d'Odysseus qui l'avait conduit à la reddition, et le champ de force Moravec qui l'obligeait à participer aux funérailles, ondoyant autour de lui comme l'air chaud d'un jour d'été. Pour un dieu, Dionysos n'était guère impressionnant. De petite taille, 6 pieds de haut à peine, le teint pâle, légèrement bedonnant, il arborait une masse de boucles mordorées et une barbe duveteuse, à peine digne d'un adolescent. La carriole fit halte. Hector ouvrit la cage et, plongeant une main dans le champ de force semi-perméable, tira Dionysos jusqu'à la première marche du bûcher. Achille referma une main sur la nuque du dieu.
« Un déicide !» murmura Cassandre. « Le meurtre d'un dieu ? Folie et déicide ?»
Hélène, Priam, Andromaque et les autres dignitaires présents sur le balcon ne l'écoutèrent point. Tous les regards étaient braqués sur le dieu pâle et sur les deux mortels bronzés qui l'encadraient. Alors que la voix chevrotante d'Hélénos avait été étouffée par le vent et le murmure de la foule, celle d'Hector, une voix de Stentor, tomba comme une avalanche sur la cité et ses échos résonnèrent sur les murailles et les tours altières d'Ilium. Peut-être l'entendit-on jusque sur les flancs du mont Ida, à plusieurs lieues à l'est.
« Paris, mon frère bien-aimé, nous sommes rassemblés ici pour te dire adieu, et le dire si fort que tu l'entendras même là où tu te trouves, dans le séjour des morts. Nous t'envoyons du miel doux, de l'huile précieuse, tes étalons préférés et tes chiens les plus loyaux. Et je t'offre aussi ce dieu d'Olympos, ce fils de Zeus, dont la graisse nourrira les flammes de ce bûcher et hâtera ta venue dans l'Hadès. »
Hector dégaina son épée, le champ de force disparut dans un frémissement, mais Dionysos était toujours retenu par ses fers.
« Puis-je parler ? »
demanda le petit dieu pâle. Sa voix portait beaucoup moins loin que celle d'Hector. Ce dernier hésita.
« Que le dieu parle ! »
lança Hélénos depuis le balcon où il se tenait aux côtés de Priam.
« Que le dieu parle !»
répéta Calchas, le devin achéen qui se tenait près de Ménélas. Hector plissa le front, mais acquiesça.
« Renonce tes dernières paroles, fils bâtard de Zeus. Et même si elles consistent en une supplique adressée à ton père, cela ne te sauvera pas aujourd'hui. Rien ne pourra te sauver. Aujourd'hui, tu es une offrande que je vais jeter sur le bûcher de mon frère. »
Dionysos se fendit d'un sourire, mais celui-ci était bien apeuré, surtout pour un dieu.
« Troyens et Achéens !»
commença le petit dieu grassouillé à la barbe rare.
« Vous ne pouvez tuer un dieu immortel. Je suis né du ventre même de la mort, imbécile. Lorsque j'étais enfant, l'enfant de Zeus, mes jouets étaient ceux que la prophétie attribuait au futur maître du monde, les dés, la balle, la toupie, les pommes d'or, la syrinx et la laine. Mais les titans que mon père avait vaincus et jetés dans le Tartare, les enfers en dessous des enfers, le royaume du cauchemar qui s'étend sous le royaume des morts, là même où ton frère Paris flotte tel un paix oublié. Les titans se blanchirent la face avec de la craie, devenant pareils aux esprits des morts, m'attaquèrent de leurs mains blanches et nues, me découpèrent en 7 morceaux et me jetèrent dans un chaudron placé au-dessus d'un trépied, lui-même placé au-dessus d'un feu bien plus ardent que ce ridicule bûcher que vous avez confectionné.
« Tu as fini ?»
s'enquit Hector en levant son épée.
« Presque !»
répliqua Dionysos. Sa voix était plus forte et plus allègre, et les murs qui avaient naguère renvoyé l'écho de celle d'Hector accentuaient maintenant sa puissance.
Ils m'ont fait bouillir, puis ils ont fait rôtir mes morceaux au-dessus de 7 feux, et l'odeur qui émanait de ma viande était si délicieuse que Zeus en personne est descendu parmi les titans, espérant être invité au festin. Mais lorsqu'il a vu mon crâne d'enfant sur une broche et mes mains d'enfant dans le bouillon, père a frappé les titans de sa foudre. Il les a renvoyés dans le Tartare, où ils résident encore à ce jour, en proie à la misère et à la terreur.
« C'est tout ?» fit Hector.
« Presque !»
Dionysos se tourna vers le roi Priam et ceux qui se tenaient autour de lui sur le balcon royal du temple de Zeus. La voix du petit dieu résonnait maintenant comme le tonnerre.
D'autres disent que mes membres bouillis furent dispersés sur la terre où Déméter les récolta, et ainsi les mortels reçurent la vigne dont ils tirent le vin. Un seul de mes membres juvéniles a survécu au feu et à la glèbe, et c'est Pallas Athénée qui l'a rapporté à Zeus, lequel a confié mon Cradiaios Dionysos à Hypta, le nom qu'on donnait en Asie Aréa, la grande mère, afin qu'elle le porte comme coiffe. Si père a utilisé ce terme, Cradiaios Dionysos, c'est pour faire un jeu de mots, car dans la langue des anciens, Cradia signifie cœur, alors que Crada veut dire figuier, si bien que...
Ça suffit! S'écria Hector. Ce n'est pas en bavassant que tu prolongeras ta vie de chien! Finis ton discours en moins de 10 mots, ou c'est moi qui le finirai pour toi!
Bouffe-moi, dit Dionysos.
Saisissant son épée des deux mains, Hector décapita le dieu d'un seul coup, d'un seul. Les Troyens et les Grecs assemblés poussèrent un hoquet. Tous reculèrent d'un pas. Le corps sans tête de Dionysos resta immobile durant plusieurs secondes, chancelant à peine, jusqu'à ce qu'il s'effondre comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Hector agrippa sa tête, dont la bouche était restée grande ouverte, l'empoigna par sa barbe rare et la jeta au sommet du bûcher, afin qu'elle atterrisse entre les chiens et les chevaux. Puis, maniant son arme comme il l'aurait fait d'une hache, il se mit à frapper, tranchant les bras, puis les jambes, puis les génitoires de Dionysos, jetant chaque pièce sur une partie différente du bûcher. Il veilla à ce qu'elle ne tombe pas trop près de la bière de Paris, car il faudrait par la suite trier les cendres afin de séparer les eaux révérées de Paris des restes impurs des chiens, des chevaux et du dieu. Pour finir, Hector découpa le torse en 12 de morceaux charnus qui finirent pour la plupart sur le bûcher, mais dont il réserva certains aux chiens de Paris qu'il avait épargnés et que les esclaves avaient libérés afin qu'ils se mêlent à la foule sur la place. Alors que les derniers bouts d'eau et de chair étaient réduits en pièces, un nuage noir monta des pitoyables reliefs de Dionysos. On aurait dit un essaim de moucherons noirs quasi invisibles, un petit cyclone de vapeur noire. Un nuage si tourmenté qu'Hector interrompit sa tâche quelques secondes et recula d'un pas. Tous alentour l'imitèrent, y compris les fantassins troyens et les héros achéens. Les femmes sur les remparts hurlèrent et se couvrirent la face de leurs voiles et de leurs mains. Puis le nuage se dissipa. Hector jeta sur le bûcher les derniers morceaux de viande rose et livide, puis jeta échine et côte découverte parmi les fagots de petits bois. Il se défit ensuite de son armure souillée de sang qui fut emportée par ses assistants. Un esclave lui apporta une bassine emplie d'eau et il nettoya ses bras, ses mains et son front ensanglanté, s'essuyant ensuite avec le tissu que lui tendait un autre esclave. À présent purifié, vêtu d'une tunique et chaussé de sandales, Hector leva le bol doré rempli de mèches de cheveux fraîchement coupées, monta au sommet du bûcher, là où la bière reposait sur son estrade de bois et de résine, et répandit sur le linceul de Paris les cheveux de ses proches, de ses amis et de ses camarades. Un coureur, le vainqueur de toutes les épreuves de course à pied organisées à Troyes ces derniers temps, entra dans la ville par les portes C, porteur d'une torche, traversa en courant la foule de soldats et de citoyens qui s'écartèrent sur son passage et gravit les marches du bûcher jusqu'à s'arrêter devant Hector. Il lui tendit la torche crépitante, s'inclina et descendit les marches à reculons sans cesser de s'incliner. Ménélas lève les yeux vers le ciel où de noires nuées s'avancent au-dessus de la ville.
« Phoebos Apollon assombrit le jour », murmure Odysseus.
Un vent froid se lève à l'ouest alors qu'Hector jette la torche sur le bois gorgé de graisse et de résine. On voit de la fumée, mais pas de feu. Ménélas, qui a toujours été plus excitable au combat que son frère Agamemnon, sans parler des autres héros et tueurs à sang-froid des forces grecques, sent son cœur battre plus fort à mesure qu'approche le moment décisif. Peu lui chaud de savoir qu'il ne lui reste peut-être que quelques secondes à vivre, tant que cette salope d'Hélène doit le précéder dans l'Hadès. S'il n'en tenait qu'à Ménélas, fils d'Atrée, elle serait précipitée dans les profondeurs du Tartare, là où les titans que vient d'évoquer le dieu Dionysos errent en hurlant dans les ténèbres la souffrance et le fracas. Sur un geste d'Hector, Achille apporte à son ennemi de naguère deux gobelets pleins à ras-bord, puis redescend les marches. Hector lève les deux gobelets.
Vent de l'ouest, vent du nord, Zéphyr le fanfaron et Borée le glacial. Lancez une bourrasque pour allumer le bûcher où repose Paris, pleuré par tous les Troyens, et même par les Argiens respectueux. Viens, Borée, viens, Zéphyr. Aidez-nous d'un souffle à embraser ce bûcher, et je vous dédierai de splendides victimes et de généreuses libations.
Sur le balcon royal, Hélène murmure à l'oreille d'Andromaque,
« C'est de la folie. Notre bien-aimé Hector, invoquant les dieux que nous affrontons au combat, afin qu'ils brûlent les restes d'un dieu qu'il vient de massacrer. »
Avant qu'Andromaque ait pu répondre, Cassandre part d'un rire tonitruant, s'attirant les regards réprobateurs de Priam et des vieillards qui l'entourent. Sans tenir compte de leur réaction, elle lance aux deux femmes
« De la folie, oui. Je vous ai dit que c'était de la folie. Et ce que prépare Ménélas, c'est aussi de la folie. Hélène, il va te massacrer, t'infliger un trépas aussi sanglant que celui de Dionysos. Que dis-tu là, Cassandre ? »
demande sèchement Hélène soudain livide. L'intéressé se fend d'un sourire.
Je dis que tu vas mourir, femme. Et seul ce feu qui refuse de prendre retarde encore ton trépas.
Ménélas ?
Ton digne époux, ricane Cassandre, ton digne et précédent époux. Celui qui n'est pas en ce moment occupé à pourrir comme du compost sur un tas de bois. N'entends-tu point Ménélas qui halète en se préparant à te passer au fil de l'épée? Ne sens-tu point sa sueur? N'entends-tu point battre son cœur mauvais? Moi, je le puis.
Andromaque se détourne de la cérémonie en cours pour se rapprocher de Cassandre, prête à la conduire de force à l'intérieur du temple, là où on ne pourra ni la voir ni l'entendre. Cassandre part d'un nouveau rire et brandit une dague, à la lame petite mais affûtée.
« Si tu me touches, salope, je te taille en pièces, comme tu as taillé en pièces le bébé esclave que tu as fait passer pour ton fils !»« Silence !»
siffle Andromaque, les yeux exorbités par la colère. Priam et son entourage manifestent à nouveau leur réprobation. De toute évidence, leur grand âge les empêche de saisir la teneur de cet échange, mais ils ne peuvent se méprendre sur sa tonalité. Les mains d'Hélène se mettent à trembler.
« Cassandre, tu m'as dit toi-même que toutes les sinistres prédictions que tu as pu prononcer étaient erronées. Troie est toujours debout, alors qu'à t'en croire, elle aurait dû être détruite depuis des mois. Priam est en vie, alors qu'il aurait dû être tué dans le temple même où nous nous trouvons. Achille et Hector sont vivants, alors que tu affirmais qu'ils mourraient avant la chute de notre cité. Aucune d'entre nous n'a été réduite en esclavage, et tu n'as pas été exilé dans le palais d'Agamemnon, où, d'après toi, Clytemnestre allait tuer ce grand roi ainsi que tes enfants et toi-même. Pas plus qu'Andromaque n'a échoué dans... »
Cassandre rejette la tête en arrière pour pousser un hurlement muet. Au-dessous du balcon, Hector continue d'offrir aux dieux du vent du vin coupé de miel et autres libations pour les convaincre d'allumer le bûcher de son frère. Si le théâtre existait à cette époque, les spectateurs jugeraient que le drame est en train de tourner à la farce.
« Tout cela n'est plus !»
chuchote Cassandre. Elle s'entaille l'avant-bras avec le fil de sa dague. Son sang coule sur sa peau pâle et goutte sur le marbre. Mais elle ne lui prête aucune attention. Ses yeux restent braqués sur Hélène et sur Andromaque.
« Le futur d'hier n'est plus,
mes sœurs. Les moires nous ont abandonnés. Notre monde et son avenir ont cessé d'être, et c'est un autre monde, un autre cosmos des plus étranges qui l'a remplacé.
Mais le don de double vue dont m'a affligé Apollon ne m'a pas abandonné, mes sœurs. Dans quelques secondes, Ménélas va se ruer ici pour planter son épée dans ton adorable mamelon, Hélène de Troie. »
Elle crache ses derniers mots sur un ton de sarcasme absolu. Hélène la grippe par les épaules. Andromaque lui arrache son arme. Puis les deux femmes entraînent leur cadette entre deux piliers et de là dans la fraîcheur de la mezzanine du temple. La jeune voyante se retrouve adossée à la balustrade de marbre, serrée de près par les deux femmes pareilles à des Érinyès. Andromaque lui pose la dague sur la gorge.
« Nous sommes amis depuis des années, Cassandre !»
siffle la femme d'Hector.
« Mais si tu dis un mot de plus, espèce de cinglé, je t'égorge comme un cochon que l'on saigne !»
Cassandre sourit. Hélène pose une main sur le poignet d'Andromaque, mais on ne saurait dire si c'est pour la retenir ou pour l'encourager. Son autre main demeure sur l'épaule de Cassandre.
« Ménélas va-t-il me tuer ? »
demande-t-elle dans un murmure à la voyante tourmentée.
« Il tentera ce jour de le faire par deux fois, et par deux fois il en sera empêché, »
répond Cassandre d'une voix atone. Elle ne semble voir ni l'une ni l'autre des deux femmes. Son sourire vire au rictus.
« Quand frappera-t-il ? »
demande Hélène.
« Et qui l'en empêchera ?»«
La première fois quand le bûcher de Paris s'allumera enfin, »
répond Cassandre d'une voix aussi monocorde que si elle récitait un vieux conte pour enfants.
« La seconde quand le bûcher aura fini de brûler. »
« Et qui l'empêchera de frapper ?»
répète Hélène.
« Ménélas sera d'abord arrêté par l'épouse de Paris. »
Les yeux de Cassandre se sont révulsés. On n'en voit plus à présent que le blanc.
« Ensuite, par Agamemnon et par Penthésilée, celle qui veut tuer Achille. »«
Penthésilée, l'Amazone ?»
dit Andromaque d'une voix étonnée dont l'écho résonne dans le temple de Zeus.
« Elle est à 1000 lieues d'ici, tout comme Agamemnon. » Comment pourrait-il se manifester avant que le bûcher funéraire ait fini de se consumer ?
Chut ! Lui fait Hélène, qui se retourne vers Cassandre, dont les yeux papillonnent avec frénésie.
Tu dis que l'épouse de Paris empêchera Ménélas de me tuer quand le bûcher sera allumé. Comment y parviendrai-je ? Comment ?
Cassandre s'effondre sur le sol inanimé. Dissimulant la dague dans les replis de sa robe, Andromaque assène plusieurs gifles à sa cadette. Celle-ci ne daigne pas se réveiller. Hélène lui décoche un coup de pied.
« Que les dieux te damnent ! Comment puis-je me protéger de Ménélas ? Nous ne disposons peut-être que de quelques minutes avant !»
Un rugissement monte des Troyens et des Achéens rassemblés sur la place. Les deux femmes entendent nettement un souffle soudain. Obéissant, les vents se sont engouffrés dans la ville par les portes serrées. La torche a communiqué sa flamme au bois. Le bûcher est allumé.